Bienvenue dans le premier épisode hors série de Pour une poignée des podcasts de Life Play Jeux de Rôle. Si vous prenez ce podcast en route, sachez qu'il est impératif d'écouter la campagne de l'ordre et donc de revenir à l'épisode 1. Pour ce premier épisode hors série, nous n'allons pas jouer, mais parler du podcast en donnant la parole aux joueurs et surtout en répondant à vos questions postées via les réseaux sociaux. Et je suis donc avec tous nos joueurs. Bonjour Xotrop.
Salut Pierre.
Alias Alissandre Stewart.
Absolument.
Bonjour Swanounet, alias...
Tamara Eutrop.
J'avais perdu ma fiche.
Légère petite confusion qui perd pas mal nos auditeurs d'ailleurs. Ah.
Quel gros troll.
Je sais pas de quoi tu parles.
Bonjour Charles.
Salut.
Alias Ateraki, alias...
Alias Lucien Lancier.
Voilà, c'est exactement ça. Bonjour Griffou.
Bonjour, alias... j'ai oublié le prénom. J'ai oublié le nom de mon personnage.
Mathieu Villard, comment Mathieu allez-vous Villard. Mathieu Villard
alias Mathieu Villard. Voilà, nous sommes avec tous les joueurs et pour information, nous publions ce premier épisode hors série juste après l'épisode 10. Pour rappel, toute la saison 1 a déjà été enregistrée et nous allons entamer aujourd'hui même les enregistrements de la saison 2.
Voilà, donc là, nous, on connaît le scénario de tout ce qui va se passer dans les prochains épisodes.
Exactement.
Mais pas les auditeurs. Mais
je crois toujours dans son rôle.
Merci. Mais vous n'allez rien spoiler, bien évidemment.
Bien évidemment.
Non, on va pas dire qu'à un moment, il y a des aigles qui nous attaquent et s'avère que c'était des mutants et qu'il y avait des...
Non, les aigles, c'est ceux qui vous sauvent.
C'est vrai, très juste.
Gandalf les appelle et...
Par contre, après, il y a des... Non, je voulais dire un truc.
Non, mais c'est plus marrant.
J'ai lu une théorie de pourquoi Gandalf, il n'avait pas appelé les aigles dès le début.
Ah ouais.
Mais j'ai oublié.
Et donc, les questions.
Merci Charles.
Désolé Charles.
Non, mais j'ai réellement lu un truc dessus.
Mais oui, j'en doute pas. Désolé.
Super, je te fais spoiler la fin des Seigneurs des Anneaux. Merci en tous les cas.
On n'est pas bien là. Ça fait plaisir de vous retrouver en tout cas.
Alors, non, c'est un vrai cauchemar. Je ne sais pas ce que je fous là. Moi, je regrette.
Petite clarification pour clarifier le découpage des épisodes. Quand on parle de chapitre, il s'agit de sessions de jeu, donc d'enregistrement. Pour information, dans la saison 1, il y en a eu 5. Et ensuite, au montage, on coupe chacune des sessions de jeu, donc chacun des chapitres, en plusieurs épisodes de 1h30. Ça fait à peu près 4 ou 5 épisodes en fonction de la longueur des sessions d'enregistrement. Donc la saison 1 est composée de 5 chapitres ou sessions de jeu. Au total, ça fait environ 18 épisodes et nous sommes donc au 10e, donc à peu près à un peu plus de la moitié de la campagne. Voilà, pour information, c'est pour ça que les épisodes ne sont pas tous structurés pareil. Par exemple, les épisodes en début de session, les joueurs résument de manière très habile le chapitre précédent, etc.
Mais ils sont un peu plus lents, du coup.
Et voilà, exactement. Voilà, on m'a souvent posé la question de savoir est-ce qu'on pourrait améliorer ça pour que ce soit un petit peu plus clair et faire des sessions de 1h30. Le problème, c'est que c'est un peu compliqué, voire impossible de prévoir à l'avance comment les sessions vont se passer, quel sera le bon moment pour couper d'un point de vue auditeur, etc. Surtout qu'on est sur un scénario qui est assez ouvert.
Et qu'on n'est pas des très bons joueurs.
Ça n'a rien à voir, mais on va en reparler après. Et donc, le découpage peut se faire qu'à priori, on ne peut pas vraiment prévoir des sessions plus courtes, ou en tout cas de refaire une intro, une conclusion à chaque fois, ce qui en plus arrêterait le cours du jeu.
On ne pourrait pas mettre une sorte de chronomètre, tu mets ça sur l'ordi, et quand tu sens que ça va arriver, les 15 dernières minutes, ce n'est pas qu'on essaye de faire une conclusion, mais tu annonces genre le climax, enfin pas le climax.
Déjà, je pense que ça va être compliqué, enfin ça va vous interrompre 2-3 fois au cours de la session de jeu, ce qui est quand même hyper relou.
Ouais, c'est vrai.
Et en plus, j'ai essayé de faire des découpages...
qui sont clairs.
Oui, ils marchent bien, on pense.
Avec un petit cliffhanger, avec un petit machin, un peu clair.
Moi, je crois que c'était que celui entre le 9 et le 10, j'avais trouvé ça un peu étrange, je ne me rappelle plus réellement.
Ça critique en live.
On m'a pas mal vanné sur celui-là parce qu'à la fin du 9, il y a genre un gros cliffhanger où toi tu es parti dans le bâtiment et les autres les autres se retrouvent sans toi et ils vont rentrer dans le bâtiment. Et en fait, c'est un faux cliffhanger parce qu'au tout début du suivant, direct, ils te retrouvent. Donc voilà, on m'a remonté.
Oui, c'est un cliffhanger à la Lost en fait, concrètement.
Voilà, ce qui permet de
tenir en haleine.
De tenir en haleine. Alors, attaquons les questions. Il y a deux grandes catégories, tout ce qui a trait à la technique et au montage, et tout ce qui a trait au jeu de rôle en lui-même. Donc, on va commencer par Max, qui nous a posé sur Facebook la question suivante. Quelle quantité de coupes vous faites pendant l'enregistrement de base? Est-ce que vous coupez uniquement le parasitage, de type « qui veut une bière ?» ou également des morceaux de jeu? Donc ça, je vais peut-être y répondre. En gros, il y a assez peu de coupes, et je coupe principalement tout ce qui est jet de dés et explications de règles pas très intéressantes. Sachant que voilà, c'était assez répétitif et qu'il y a eu pas mal d'explications de règles dans la première saison.
Est-ce que c'était beaucoup les mêmes explications de règles pour les mêmes joueurs?
Voilà, donc je ne voulais pas
cibler personne.
Non, rassurez-vous, oui, non. Pour la deuxième saison, il faut tout réexpliquer. Parce que
tu vas faire un effort, s'il te plaît.
Comme moi, tu notes les règles pour chaque action.
Non, mais oui, effectivement. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup fait d'interruption, parfois une interruption pour goûter, pour un truc comme ça, pour dîner éventuellement.
Généralement, quand on est lancé, on est lancé.
Mais bon, on est lancé, voilà. Donc,
il y avait celle où, quand il y avait un crétin qui avait renversé de la bière aussi.
Ouais. Est-ce que c'est le même mec qui devait se faire expliquer en permanence les règles et les jets de dés?
Peut-être bien.
Et on revient avec l'agressivité de Xavier.
Attends, c'est toi qui as commencé.
Alors, 14 questions à un sujet. Hein, il y a eu une remarque comme quoi le personnage d'Alissandre était assez présent et assez. Mais c'est que tu incarnes ton personnage. Ensuite, on avait une question de Moël sur Raymond sur Facebook et qui recroise la question de Julien par le site, qui nous félicite pour l'ambiance sonore et qui pose la question de savoir si les musiques ont été écoutées.
Qui veut une bière?
Si les musiques ont été écoutées pendant la partie ou ont-elles été rajoutées au montage? Je réponds rapidement là-dessus. Ça a été ajouté en post-production. Et là encore, c'est assez compliqué de caler des musiques en direct, parce qu'on ne sait jamais trop s'il va y avoir des blancs pendant plusieurs minutes, si jamais la description que je fais d'un point de vue ambiance va être interrompue ou ininterrompue par les joueurs, ce que vont faire les joueurs, etc. Donc autant je suis assez pour les ambiances sonores quand on fait du jeu de rôle classique, autant d'un point de vue qualité et montage, je préfère le faire à posteriori.
Ouais, c'est mieux.
Par contre, c'est intéressant. Je savais pas que pour des jeux de rôle qui n'étaient pas forcément enregistrés, vous pouviez mettre une ambiance sonore.
D'accord, ouais, ça se fait.
Tu fermes les volets.
Je sais pas si ça vous. Je sais pas si ça vous apportera quelque chose en tant que joueur, vous, d'avoir du son et des musiques pendant, mais je trouve que ça parasite, en fait.
Et en plus, surtout, c'est
dans notre cas précis, oui.
Et si en plus, à l'enregistrement, tu dois virer des jets de dés, par exemple, la musique, elle risque d'être coupée à un moment un peu bizarre.
Exactement.
Voilà. Donc, ouais, non, effectivement, mais bref, c'est. Ouais.
Moi, je trouve que c'est pas forcément une ambiance qui s'y prête énormément. Enfin, c'est pas celle où il y a le plus besoin de musique. C'est chouette de l'avoir pour les auditeurs, mais pour nous, c'est pas. Enfin, voilà. Donc, Toulouse, par exemple, chaque. Moi, j'aime bien avoir de la musique parce qu'il y a une ambiance très lourde.
Attends, la saison 2, il va nous faire un truc ultra dark.
Ah, c'est possible, hein, mais là, pour la saison dernière, ça ne m'a pas dérangé du tout.
Alors moi, j'aimerais un peu plus de dark metal, d'ailleurs, justement, de black metal dans les... Ok, d'accord.
Non, d'ailleurs, c'est pas du tout, mais j'aime bien les choix musicaux.
Il y a un morceau de Gobelin.
Écoute, quelle magnifique transition. On nous félicite grandement pour nos choix musicaux. Et on nous demande.
C'est un message de Charles. Et
on nous demande régulièrement quelles sont les musiques. Alors, pour info, maintenant, dans chaque poste de chaque épisode, j'indique toutes les musiques à la fois d'ambiance, d'intro et de fin.
On fait ça dans Culture Breakdown, mais juste pendant 3 épisodes. Après, on oublie.
Et pour information, tout est centralisé dans une playlist Spotify dont l'adresse est disponible aussi sur le site.
Ça, c'est pas du tout une ambiance musicale, c'est juste une moto qui passe.
Non, c'est Wardell Blackmore qui vient nous pourchasser.
Exactement. Tu les as appelés, non, peut-être.
Donc, voilà. Rendez-vous à la Bastille.
Vous trouverez l'adresse de la playlist Spotify sur le site. Et on nous félicite aussi pour la bonne qualité audio. Et on nous demande pourquoi, contrairement à beaucoup d'autres, ce podcast n'est pas cacophonique. Alors, ça vient de plusieurs raisons.
C'est Xavier. Son tempérament fait que tout est calme tout le temps.
Tout le monde se tait autour, c'est ça? Oui.
Non, moi j'ai une réponse.
Alors, monsieur Xotrope, on vous laisse répondre.
Parce qu'on est quand même 4 sur 5 à avoir fait du podcast avant et que je
et
pense
que
qu'on a.
Charles bosse dans l'audiovisuel aussi.
Et voilà aussi, non, mais voilà. On a une expérience des débats autour du micro et de la prise de son et on sait qu'il ne faut pas trop en parler en même temps, même si parfois c'est difficile de faire autrement. Mais...
Bah, disons que je ne m'attendais pas. Justement, je me demandais comment ça allait être en écoute parce que mine de rien, je n'ai pas fait beaucoup d'émissions et je ne peux pas non plus trop avoir l'expérience que vous aviez. Mais ouais, c'est plutôt très facilement écoutable. Enfin, non, ouais, voilà.
Ça vient aussi, alors ça vient de la discipline des joueurs et ça vient aussi du matos. Juste un petit détail sur le sujet. On est dans une sorte de vrai studio, entre guillemets, dans le sens où le retour qu'on a, nous, du son individuellement quand on parle dans le micro, c'est vraiment le son qui est enregistré Et qui sera diffusé aux auditeurs. Donc, si ça
c'est-à-dire
devient...
que là, quand Pierre parle, je l'entends à travers un casque. Je n'entends pas sa voix directement.
Exactement. Moi, c'est pareil. Et donc, en gros, dès que ça vient cacophonique d'un point de vue de l'enregistrement, ben, on se rend immédiatement compte et on ne peut plus communiquer. Donc, en fait, ça ne peut pas devenir cacophonique ou dès que ça le devient, on se rend compte instantanément et les gens arrêtent de parler ou s'interrompent parce qu'on ne peut pas parler tous les uns sur les autres. Quoi. Donc, ça vient de la qualité formidable de nos participants. Sans exception.
De nos partenaires.
On n'aura pas beaucoup des compliments comme
et
ça.
Et du matos. Pour si vous voulez du détail sur le, parce qu'il y a souvent des questions sur le matos, il y a un post sur le blog dédié à comment est-ce que le studio fonctionne avec les micros, tout ça. Chacun le son studio. Micro, chacun son casque, etc. Oui, Geoffroy.
J'ai une question à moi, du coup. Est-ce que tu vas continuer les billets de blog, alternativement, une semaine sur deux, pendant la deuxième partie de la saison?
Alors, peut-être pas.
Est-ce que tu auras autant de sujets, voilà?
Peut-être pas au même rythme, mais le but est de mettre de plus d'informations possibles, ouais, sur le site web.
Ok.
Voilà. Ensuite, c'est des questions qui a trait au jeu de rôle. Donc, il y a Romain de Facebook qui ne connaît pas vraiment le JDR et qui se demande mon niveau d'expérience en tant qu'MJ. Et il trouve fascinant de réussir à faire un live play qui sache rester cohérent alors que les personnages n'en font qu'à leur tête parfois. Quitte à pousser le MJ à repenser une scène donnée.
Est-ce qu'il y a une mention spéciale à la fameuse partie où on s'est retrouvé à la Bastille qui était vraiment un monument de bon sens et de...
Je pense que ça allait sans dire et que c'était pas le cas de surligner. Merci,
alors,
Xavier.
Il n'y a pas de mention et de contexte. Je vais répondre sur le MJ. Moi, en gros, je joue au jeu de rôle depuis la 6e, donc ça fait à peu près 20 ans, sous diverses formes. Mais j'ai pas pratiqué depuis très longtemps. Ça fait à peu près 8 ans et là, je reprends en gros grâce à ce podcast. Mais j'ai surtout été joueur et moins MJ. Voilà. Les joueurs, eux, il y en a assez peu qui ont une vraie grosse expérience.
Grosse expérience quasiment. Swan a beaucoup joué avec Toulou.
Non. Enfin, pas du tout. J'ai joué deux fois avec Toulou, mais plus jeune, j'en ai fait pas mal au collège.
Et avec Xavier, on a commencé il y a 2 ans maintenant. On avait fait une campagne à la base de Donjons et Dragons.
Ouais. Et puis moi, j'ai fait un peu de Warhammer jeu de rôle au lycée.
Et moi, du coup, c'est seulement mon deuxième jeu de rôle et ma deuxième campagne.
Moi, j'ai fait du jeu d'enquête, je me rappelle plus du titre par contre, c'était une sorte de Cluedo et puis voilà.
Une sorte de murder un peu peut-être,
hein. Ouais, ça devait être ça, mais c'était il y a quelques années aussi.
Un truc avec des mousquetaires aussi.
D'accord.
Bref.
Donc AMJ, moi j'ai plutôt de l'expérience en tant que joueur, et des joueurs plutôt, pas débutants mais sensibilisés quoi. Donc en gros le challenge du MJ c'est en effet de s'adapter au... Surtout qu'on a un scénario maison et moi j'aime bien faire des choses en mode bac à sable. Et en plus, il y a la pression, le fait qu'on soit enregistré, que ce soit du live play. Mais personnellement, c'est ce qui me motive, c'est-à-dire être capable de s'occuper en tant qu'MJ. C'est pour ça que je préfère les scénarios maison, de devoir improviser, etc. Sinon, je pense que je m'emmerderais en termes de mastering. Donc oui, c'est ça qui est fascinant avec le jeu de rôle. Et c'est aussi pour ça que j'y joue. Une question de Florent de Facebook. On est un peu dans les choux quand on parle de Toréador et autres comparses. Il aimerait connaître les capacités d'un vampire moyen pour mieux apprécier les spécificités de chaque personnage.
Mais il n'y a pas besoin, même nous, on n'a rien compris.
Alors, justement. Non,
mais ouais, ça, enfin.
Donc il n'y a pas besoin.
Je ne sais pas si c'est très utile, très honnêtement. Enfin, alors,
si, ça l'est.
Si, en fait, ça l'est, mais.
Ce que je trouve très intéressant, c'est que justement, l'auditeur est dans la même situation que vous. Ça fait partie d'un scénario de découverte de l'univers. Donc cet auditeur a exactement la même position que les PJ. Ça, je trouve ça plutôt intéressant. Et le but, c'est que la suite, justement, sera l'occasion de découvrir un peu plus les autres factions, les pouvoirs, etc. Oui.
Bah, là, dans le deuxième épisode, on a combattu un Malkavien.
Oui.
On va rencontrer dans le prochain.
Ah non, non,
la prochaine session. On rencontre un autre type de vampire aussi dans la prochaine session.
Mmh. Oui, c'est vrai, oui. Voilà. Mais donc, du coup, effectivement, le Malkavien est très puissant. Enfin. Il a des pouvoirs qu'on n'a pas, il a des capacités assez étranges.
Très basé sur le psychisme, le Malkavien.
Donc voilà, en fait, ce qu'on a compris, nous, à ce moment-là, ce qu'on avait compris, c'est qu'effectivement, il y avait des vampires qui avaient des capacités bien différentes des nôtres. Et nous, en fait, on se trouve pas, on n'est pas moins puissant, mais on est peut-être moins expérimenté. On a des capacités qui sont moins développées, mais dans l'absolu, on n'est pas moins puissant ou plus puissant.
Ce que j'avais trouvé intéressant, c'était la remarque de Swan qui disait, en découvrant les pouvoirs, ou je sais plus si c'était Swan ou Tata, on est surpuissant avec tel et tel pouvoir, je trouve ça ouf.
En fait,
vous vous rendez compte qu'il y a des choses autrement puissantes de manière différente, etc., et que c'est pas forcément aussi simple que ça. Donc le but, c'est que ce soit un scénario de découverte, donc vous allez apprendre petit à petit, les auditeurs aussi, plus d'infos sur les vampires, etc. Mais je trouve que ça fait partie de l'ambiance. Une question de Pierre de Facebook. Il pensait qu'il allait se faire chier à écouter d'autres jouer, mais il dit que finalement nous parvenons à bien rester concentrés sur la partie. Est-ce grâce à un montage aux petits oignons ou à des joueurs super disciplinés?
Les deux.
Ah non, pas les deux. Ah, c'est attends, je veux savoir si deux. Pierre va nous lancer des fleurs ou s'il va se lancer lui-même.
Mais attends, ouais, voilà, c'est qui ce Pierre?
Vous pouvez aller voir sur Facebook, ça n'est pas moi. Alors, pour moi, ça vient principalement des joueurs.
Ah,
il est gentil.
Non, non, c'est le montage aussi.
Non, enfin, le montage, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de digressions. Les rares digressions, c'est parce que les règles n'ont pas été comprises ou des choses comme ça. Pour moi, ça vient principalement du fait que, comme en étant podcasteur et comme vous avez un micro devant vous, le micro, vous savez qu'il est là, et dès qu'on allume l'enregistrement, vous savez que vous êtes en mode, que vous allez être réécouté.
Il nous canalise.
Donc, mine de rien, je pense que le micro vous canalise. Voilà. Donc, je pense que c'est.
Je sais pas du tout de quoi tu parles. Avant l'enregistrement, là, c'était pas du tout le bordel.
Ensuite, il dit que sa pratique du jeu de rôle est assez éloignée de la mienne, c'est-à-dire moins d'opposition entre le MJ et les joueurs. Voilà.
Alors, on n'a pas vraiment d'opposition à avoir avec toi.
Il y a beaucoup d'opposition entre les joueurs, par contre.
Mais oui, il peut y arriver. Non, mais dans l'ensemble, on se comprend, même si, je veux dire, il y a toujours des petites discussions. Ou...
C'est un autre problème.
Alors, c'est parce que vous. Je connais mal les conditions dans lesquelles vous avez joué différemment, mais c'est vrai que j'ai la réputation et je pense que là, ça en fait partie. On ressent quand même une légère compétition, entre guillemets, ou opposition entre le MJ, dans le sens où ils considèrent que quand vous avez fait des erreurs ou des oublis, je vous enfonce un peu dedans.
Ça reste gentil, enfin.
Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé d'un point de vue joueur? Moi, je vous donnerai mon avis après.
Bah, moi, ça me. Enfin, vas-y,
Xavier. Moi, je trouve ça plutôt sain. Hein, je veux dire, je trouve ça plutôt bien, puisque finalement, t'es pas un joueur. Enfin, on est là pour en chier quelque part, puisque c'est vraiment une mise. C'est pas réaliste, mais c'est un bac à sable total. Donc, autant que ce soit cruel par moment pour qu'il y ait du challenge.
Puis, on a fait des grosses erreurs. Et puis, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'épisode 10, personne n'est mort.
Voilà. Non, mais c'est vraiment.
Non, mais voilà, enfin, non, mais il y a quand même eu des grosses erreurs, quoi. Mais,
des énormes erreurs, ouais.
Pourquoi tout le monde me regarde?
Moi, je ne suis pas regardé, non, mais il y a eu des erreurs de tous les côtés. Enfin, tout le monde a fait des erreurs.
Merci, Xavier.
Mais surtout la Bastille.
Moi, ce que je trouve très fort, c'est que l'univers en lui-même, c'est un univers qui est. Enfin, toi, en tant que MJ, tu incarnes l'univers, en fait. Et c'est un univers qui est assez impitoyable pour les nouveau-nés. Donc, c'est plutôt logique que tu sois impitoyable envers nous.
Les nouveau-nés, donc les nouveaux vampires.
Oui, les nouveaux vampires.
Mais moi, pour réagir aussi, le fait qu'il pensait que ça allait être inécoutable, c'est une remarque au tout début. Moi aussi, en fait, en le faisant, je pensais vraiment que personne n'allait nous écouter, que ça allait être chiant comme la mort. Et au final, avec tes 30 heures de rush infini, tu t'en es bien sorti. Parce que, vraiment, au final, il y a des épisodes, genre, je sais plus si c'est épisode 4 ou 5.
C'était le 4 où t'avais kiffé.
Oh, c'était trop marrant parce qu'on
devait. Tu des flics sur la route.
On commençait à connaître nos pouvoirs et on se battait pour avoir la thune du mec mort.
Non.
Moi, je me suis éclipsé pour aller choper le sang de machin.
Mais parce qu'on a des habitudes de joueurs de Donjons et Dragons ou d'autres trucs.
Pardon. Et c'était tellement marrant.
Le meilleur moment, c'est quand Charles n'avait aucun pouvoir, qu'il disait alors là, je me concentre et je regarde dans son esprit. Charles qui forçait pour avoir un pouvoir et Pierre qui faisait bah, il se passe.
Le moment, on se force tous les deux avec Charles.
Et on se regarde et puis. Voilà. Parce qu'on était un peu, pour le coup, on était vraiment projetés. Je cherchais vraiment quel pouvoir. J'étais le dernier à avoir ma manifestation de pouvoir et donc j'étais impatient, quoi. J'attendais et tout. Je cherchais à provoquer les bobos où ça pouvait arriver.
Ce qui est étonnant, c'est que cette impatience ne s'est pas traduite ensuite en compréhension du pouvoir que tu as.
Non, pas spécialement, parce qu'à chaque fois que j'utilise, c'est pas forcément de la meilleure façon.
Alors, juste mon.
Specs.
Non, pardon.
Mon avis sur la question. En gros,
Fortitude.
Je trouve que c'est intéressant de créer une légère opposition stimulante entre le MJ qui traduit le monde et les joueurs. Ça permet de pas que les joueurs aussi se laissent pas porter par une simple narration du MJ en sachant qu'ils sont totalement safe. Je trouve ça aussi plus réaliste et ça valorise vos actions en tant que joueur et la réussite qu'il y a à la fin, parce que si les choses étaient si faciles que ça ou si à chaque erreur qui était faite c'était automatiquement corrigé, je trouve que ce serait moins stimulant pour vous. Et pour moi, les joueurs et l'histoire restent au centre, mais au moins ça veut dire que vous êtes vraiment responsabilisés, que ça donne plus de valeur à l'histoire, parce que l'histoire a abouti vraiment par un effort intelligent collectif et pas par simplement des rattrapages artificiels.
Ah oui, absolument. Oui, effectivement, la conclusion est... Enfin, on va pas en parler, mais... Voilà, c'est uniquement notre fait, quoi.
Oui.
Ce qui est cool aussi, c'est qu'on arrive à te coincer, enfin, qu'on arrivait à surprendre le MJ. Je trouvais ça... C'est pas arrivé forcément fréquemment, et mais
pas
voilà.
Forcément tout le temps dans le bon sens.
Mais non, mais quelquefois, tu peux... Toi-même, tu peux te dire, attends, par rapport à ce que j'ai prévu...
J'ai eu de temps en temps des pauses, en effet, où on me dit, ah, c'est là où il faut absolument que l'univers et le scénario qu'on imagine soient hyper cohérents, parce qu'il faut en effet, à n'importe quel moment, d'être capable de se dire, c'est normal, ok, ils font ça, comment est-ce que les autres vont réagir, etc. Et c'est là où le scénario doit être un peu...
À quel moment, par exemple, d'ailleurs, c'est intéressant.
Dans
les épisodes passés, à quel moment est-ce que t'as été vraiment surpris, tu savais pas comment réagir.
Les deux plus grosses improvisations, c'était Bastille.
Ouais.
Hein, je pense que là, ça.
Mais du coup, t'as dû prendre ton pied à scénariser ça, à improviser ça.
Et après, quand, alors là, je vais juste vous le dire, mais les auditeurs ne le comprendront pas, quand vous avez capturé et interrogé quelqu'un.
D'accord.
Où là, la discussion était, quand vous le verrez à la réécoute maintenant que vous connaissez le twist, la discussion était extrêmement complexe à avoir pour maintenir le scénario. Et voilà, je devais vraiment analyser qu'est-ce que la personne pensait exactement.
Attendez, j'ai eu du mal à voir trop.
On en reparle après.
Dans les épisodes futurs.
Ça se passe plusieurs épisodes en même temps.
Dans les épisodes futurs. Alors, ensuite, il y a une question.
Là, c'était vraiment du poids lourd. C'était,
c'était compliqué. Une question de Guillaume Vendée, donc du podcast Club JDR. Comment les joueurs n'ont pas pu penser qu'ils jouaient à Vampire? Que leur avais-tu dit? Sont-ils naïfs?
On est naïfs! Je vais prendre mon exemple. Moi, j'étais vraiment naïf.
La question n'est pas terminée.
La feuille de perso était pourtant bien une feuille de vampire, non? Point d'interrogation.
Avec marqué vampire en gros,
non,
en caps lock.
Il y avait marqué World of Darkness sur la feuille.
Non, il y avait marqué vampire.
Là, il y avait marqué vampire, la vieille mascarade.
Alors, moi, j'étais assez naïf et j'étais persuadé qu'on n'allait pas regarder des vampires. Non, parce que. En fait, la manière dont on a. Moi, je pensais vraiment que si on avait joué à Vampire, on allait incarner des vampires dès le début. Et en fait, on est parti dans une optique où on écrivait vraiment nos personnages dans une optique totalement différente. Et au début, je ne me suis pas dit, on va reprendre le système de Vampire, on va reprendre certaines règles. Mais
Pierre nous a dit en gros c'est mes règles préférées, ça marche trop bien, donc on va juste prendre les règles mais on va faire autre chose, et ça me paraissait pas bête. Et donc si on prenait les règles de Vampire, on prenait la fiche de Vampire, il y avait marqué Vampire en caps lock dessus. Voilà.
Pareil, parce que comme tu nous as fait passer quand même pas mal de temps pour inventer un passé à nos personnages, pour se créer une identité par rapport à ce qu'on voulait, puisqu'on avait quand même un champ libre et tout, chacun est venu avec un background assez différent et tout. Et donc du coup, je m'attendais pas à le remettre en question très rapidement. Et donc oui, naïf mais surpris complètement.
Griffou.
Moi, je savais que du coup, Vampire, c'était effectivement ton jeu de rôle préféré. T'en avais beaucoup parlé dans Basingcast à l'époque. Mais par contre, j'avais un doute. C'est-à-dire qu'au début, je pensais pas spécialement qu'on allait jouer à Vampire, même si la fiche de perso était évidente. Mais par contre, je voyais des vampires partout dans la première session, jusqu'à la fin, jusqu'au moment où on rencontre notre sire. Je vois des vampires partout. Pour moi, c'est pas Max, c'est
Maxime.
Maxime. Maxime est un vampire. Pour moi, tout le monde est un vampire. Pour moi, quand on arrive dans une auberge, on va voir des vampires. Et je le dis à ces moments-là.
Dans l'absolu, c'est le cas.
Directement à la fin du premier épisode, et je sais plus si tu avais gardé le montage. Quand tu fais l'espèce de truc, genre là, vous vous réveillez, vous voyez, vous êtes tous ensemble, et il y a Maxime qui est au fond de la salle, qui a une mitraillette à la main, etc. Et pour moi, là, directement après la partie, j'ai dit à tout le monde, c'est bon, on est des vampires. C'est évident pour moi, ça y est, on a été transformé, tout ça. Et tout le monde m'a dit non.
Moi, j'y ai pas cru.
Tout le monde me disait non.
Alors, je sais, effectivement, on peut passer pour des abrutis, hein, je le comprends, hein, mais.
C'est sûr.
Mais, merci.
Je parle pour nous tous.
À votre décharge, en effet, j'avais dit à tout le monde, et c'est vrai que j'aime beaucoup les règles de Vampire et World of Darkness. Et à votre décharge, encore une fois, je les utilise souvent pour des mondes différents, univers maison, post-apo, etc. Autre élément à votre décharge, j'avais créé un beau livre du PJ avec un background très complet de l'univers mortel.
C'était magnifique.
Pour vous dérouter et qui, en fait, va aussi être un petit peu utile quand même pour la suite. Et d'ailleurs, ce document en PDF est dispo sur le site web. Et l'idée était de rendre le background humain assez précis et complet, aussi pour détourner un peu l'attention, mais aussi pour enrichir les personnages humainement. Ce que tu dis, Charles, sur on a passé tant de temps à concevoir notre background mortel que je pensais pas forcément qu'on allait tout remettre à plat, entre guillemets, pour passer vampire. Mais en fait, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que normalement, quand on joue à vampire, on passe pas assez de temps sur son background mortel, ce qui fait que ça enlève toute une dimension hyper intéressante à son personnage, en fait. Et donc, je trouve pas que ce soit une perte, au contraire, je trouve que ça permet d'avoir un personnage qui est beaucoup plus réaliste, riche, etc. Voilà. Alors, question suivante. Barberousse de Twitter. Qu'est-ce qui vous a fait choisir un personnage féminin, masculin? Est-ce que cela influence votre jeu? Donc ça, c'est, pour rappel, il y a deux joueurs qui incarnent un personnage masculin et deux joueurs qui incarnent un personnage féminin. On va peut-être interroger les deux joueurs qui incarnent des personnages féminins, à savoir Xotrope incarne Alissandre. On va commencer par toi.
Bah, je sais pas trop, en fait.
Est-ce que t'as... Pourquoi ce choix? Et est-ce que ça a une influence sur ton style de jeu?
Alors, comme on peut le voir, mon père Alessandre est très bourrine. Donc, je pense que... Enfin, je l'aurais joué comme ça, même si ça avait été un garçon.
Mais t'es un social justice warrior, donc du coup...
Mais comme je suis un social justice warrior qui est la cause LGBT, et bah... Voilà.
C'est non. Clair.
Comment ?
C'est cohérent.
C'est cohérent. Non, en fait, le truc, c'est que d'une part, je sentais venir qu'on allait être, que ça allait être une sausage fest, si je prenais pas un personnage féminin, et que ça m'aurait gêné qu'on soit quatre personnages masculins.
En même temps, on est quatre joueurs.
Mais on est quatre joueurs, effectivement. Mais après, je sais pas si la manière dont je joue à Lysandre est très, très cohérente, je sais pas trop. Effectivement, c'est pas cohérent vis-à-vis de forcément de mes capacités sur le papier.
C'est plus ça, c'est plus que le côté féminin. C'est
mais
plus ça.
Moi, je pense que après, je n'ai pas particulièrement non plus calculé le truc en fait.
Swan qui incarne Tamara Eutrope.
Moi non plus, je sais pas trop pourquoi. C'est un jeu de rôle. On se peut se mettre dans un personnage à part. Moi, je suis un grand mec qui pue
et
maladroit. Et je me suis dit, bah voilà, je vais faire une fille.
Tu sens très bon.
Celui-là qui pue pas et qui est pas
douché
mal à
ce
droite.
Matin.
Et qui s'appelle Eutrope.
Alors oui, alors.
Non,
là...
enfin voilà, je sais pas trop quoi répondre à cette question. Ça m'a pas. Je sais pas. Voilà.
Merci.
De rien pour. C'était l'équation.
Xavier, tu veux terminer?
Non, oui, alors j'aimerais qu'on revienne justement sur le personnage de Swan. Parce que Swan ne m'a pas donné mon autorisation pour prendre mon nom de famille, donc je vais l'attaquer en justice. Là, comme Jacques Cousteau a fait avec son fils, moi je vais attaquer. Oui, tu vas voir, c'est super drôle comme histoire. Et voilà, donc Swan, rendez-vous au tribunal.
D'accord, tu peux demander à Pierre, ça coûte cher, pardon.
Ah ouais?
Ta gueule. alors aussi, je pense qu'il faudra qu'on change un petit truc au niveau des noms, parce que chacun a un prénom, un pseudonyme et en plus un nom de perso. Bon, je pense qu'il y a.
Sachant qu'en plus, enfin, ouais.
Il va falloir qu'on trouve une manière d'être un peu plus, enfin, d'en choisir un, parce que je pense que les auditeurs sont un petit peu perdus dans qui est qui. Ça vient de me revenir. Une question de Meles Badger via le site web. La saison 2 va-t-elle continuer avec du V20, donc version 20e anniversaire de Vampire la Mascarade? Avez-vous des projets pour d'autres jeux de rôle? Alors. Donc, en effet, on va continuer sur du Vampire la Mascarade 20e anniversaire. Il nous pose aussi la question, j'ai oublié de savoir si on va jouer le reboot qui s'appelle Chronicles of Darkness, qui est en gros Vampire Requiem. La réponse est non. Et pour ce qui est des autres univers de classique World of Darkness, on va les approcher, les autres univers, mais les joueurs n'incarneront pas des loups-garous, des
esprits,
des fées, tout ce genre de trucs.
Quel bordel.
Et pour ce qui est des autres jeux de rôle tout court, il est en effet probable qu'au bout d'un moment, on change d'univers, surtout que je fais en ce moment une divers folie d'achat en crowdfunding. voilà, je suis une grosse victime.
Petite boîte de 15 kilos.
Il achète même des jeux qu'il n'aime pas.
Sur le sujet. Et moi, en tant qu'MJ, je pense que je me lasse beaucoup plus rapidement que je ne le faisais en tant que joueur d'un univers. Donc voilà, probable qu'on change un de ces quatre. Une question de Micralium via le site. Pourriez-vous expliquer, même sommairement, comment un jet de dés est réussi ou raté? Réussite, échec critique, diff 6, diff 8, etc. C'est des dés de combien et combien de dés? Histoire de mieux comprendre la mécanique du jeu. Et je propose que Charles...
Voilà, c'est ce que
j'ai dit. Vous n'avez pas vu, cher auditeur, mais tous les doigts se sont pointés vers notre cher Ateraki pour expliquer tout cela.
Alors, on a un dé à combien de faces déjà? C'est un dé à 8 faces à peu près. Ouais, voilà.
À peu près.
Et 10 faces, Charles. Ah. C'est 0 à 9.
C'est 0 à 9?
Oui. Ok, on va s'arrêter là. Donc, la spécificité des Vampires, c'est qu'on ne joue qu'avec qu'un seul type de dé, ce sont des dés 10. Ce qu'on appelle la difficulté, c'est, voilà, on pose une borne, et si jamais, par exemple, on est dit difficulté 6, si le résultat est égal à 6 ou supérieur, alors ce cas-là, le dé est considéré comme une réussite. Donc, en gros, plus la difficulté est élevée, plus avoir des réussites est difficile. Oui, mon cher.
Et pour savoir Chauffin. Typiquement le nombre de dés qu'on lance, on prend, enfin, pour un jet dextérité plus athlétisme, on va jeter le nombre de dés, enfin, de dés qu'on a de points en dextérité, le nombre de dés qu'on a de points en athlétisme. Donc, si on a 3 en dextérité et 3 en athlétisme, on lance 6 dés. Et ensuite, le nombre de. Enfin, si on a à difficulté, difficulté 6, donc la difficulté classique, le nombre de dés qui ont 6 ou plus vont dépendre du nombre de réussites.
Alors là, je pense que la moitié des auditeurs n'ont rien compris. Et encore, parce qu'après, genre, si tu utilises une arme, après, il faut savoir le nombre de points de dégâts que ça fait. Enfin, c'est un bordel.
Ouais, non, mais les dégâts, c'est autre chose.
Après, il y a aussi les échecs critiques. Les échecs critiques annulent une réussite, alors qu'un échec normal n'annule pas une réussite.
Alors, donc, quand un dé fait 1, il annule une réussite. Et si jamais, à la fin, vous n'avez qu'un 1 qui reste, en gros, un score négatif, là, ça devient une réussite critique, un échec critique. Il n'y a pas de réussite critique. En gros, la réussite critique, c'est...
Ça annule. Enfin, elle ne peut pas être annulée par un échec critique.
Voilà. Bref, vous comprenez.
C'est un bordel.
C'est pas si compliqué que ça. Je vous invite à lire les règles de World of Darkness. Et je pense que de toute façon...
Ça peut faire un article de blog,
on va réexpliquer ça pour la saison 2, une xème fois. Pour terminer, les questions, une question de Misha. Tiens, elle s'appelle comme ma femme, comme c'est plaisant.
C'est marrant, ça.
Mm-hmm. Quel est le but final du jeu et quand est-ce que ça s'arrête?
On a marre de partir de chez elle le samedi après-midi.
En fait, je crois que c'était sur un forum Minecraft qui a dit ça, non?
Oui.
Voilà. Merci. Non, parce que souvent, la question qu'on te pose quand on parle de Minecraft, mais c'est quoi le but du jeu et ça s'arrête quand?
Bah, c'est tuer les dragons voilà. Dans le Nether.
Voilà, d'accord. Mais ça s'arrête pas après.
Alors, écoute. Alors, en fait la fin du jeu, ce sera peut-être le moment où on aura chacun une vie vraiment marquée et où on décidera de la prendre en main et qu'on partira.
Parle pour toi, Xavier.
Ouais. Hein? Bref. La fin du jeu, il n'y a pas de fin du jeu.
Le but du jeu, c'est de raconter une histoire. Donc, à partir du moment où on a envie de continuer à en raconter, on continue à jouer, quoi.
Je pense que c'est voilà, tout
et où personne n'est lassé.
Voilà, exactement. C'est exactement ça. Voilà, ce n'est tout pour les questions. Peut-être un retour.
Et quel est le but du jeu? On n'a pas répondu à ça.
Pour moi, c'est de raconter une histoire de manière,
faire plaisir.
De manière collective. Quoi. Oui. Mais si vous voyez un autre objectif à faire du jeu de rôle, ça m'intéresse d'entendre.
Développer les capacités sociales,
ne pas s'ennuyer
le travail collectif.
En boule, en pleurant.
Arrêtez de parler ensemble.
Ça se met sur un CV, j'ai fait du jeu de rôle.
Non. Ah, ça, c'est une grosse question. Il y en a qui ont essayé.
Ils ont été des problèmes. Hein.
Alors, parfois, si tu es dans la technique, tu tombes sur le bon recruteur qui est le CTO qui kiffe aussi. Mais souvent, c'est malheureusement encore plutôt vu de manière assez négative.
Mais c'est le travail d'équipe, c'est la collaboration.
Oui, mais les gens ne voient pas ça parce qu'ils pensent que tu vas les piller des tombes.
C'est pas faux.
Après, tu peux.
Tu penses qu'elle y est toujours, cette image, c'est raison.
Bien sûr, bien sûr. Même des gens de mon âge, hein, quand je dis que je fais du jeu de rôle, oh là là, ça fait bizarre. Et d'ailleurs, c'est un vecteur, je trouve, de diffusion hyper intéressant, le live play. J'y ai repensé là quand j'ai fait écouter le podcast à quelqu'un qui fait absolument pas de jeu de rôle et qui savait pas ce que c'était. C'est au final la meilleure façon de présenter qu'est-ce que le jeu de rôle et même de l'apprécier sans la peur de quelqu'un qui débarque dans une salle et doit dire des trucs. Donc simplement écouter l'histoire rassure les gens et ils comprennent qu'en fait on raconte une histoire et que c'est cool. Et que... Voilà, donc je pense que le live play a son rôle
dans
la démocratisation du jeu de rôle et ce que c'est. Passons un peu au retour des joueurs. Vous avez fini la première saison, vous avez réécouté vos parties au même rythme que les auditeurs, donc vous en êtes à l'épisode 10.
Oui, voilà, on va pas spoiler la suite.
Qu'est-ce que vous en pensez à la réécoute? Est-ce que vous avez un message à faire passer aux auditeurs à ce stade ou...
Je suis désolé. Non, je sais pas. Moi,
j'ai un message.
Ouais.
La vérité est ailleurs.
Non.
J'ai un message aussi, hein. Pour moi ça va pas s'arranger.
Ah non, ça va pas s'arranger. Alors là, si on peut
dire... C'est pire en pire. Hein.
Alors, pour les auditeurs, si vous avez trouvé que jusqu'à maintenant c'était chaotique et compliqué, épisode 11, ça commence à devenir le bordel.
C'est-à-dire que là il reste deux sessions.
Deux sessions, oui.
Voilà, donc là vous venez d'avoir vos premières visions.
Dans deux mois, vous allez avoir la conclusion.
Ouais.
Un peu plus, ouais.
Et voilà, vous allez vraiment... Ça, on va en chier. Donc, autant vous prévenir.
Mais par contre, moi, je trouve que ça devient de plus en plus intéressant.
Ouais, c'est vrai.
Et il y a moins de combats. Ça, c'est aussi à souligner. C'est que les parties combat, fight aux armes, etc. Donc, comme là, on vient de l'avoir contre le Malkavien, comme on l'a eu avec les flics, plus ou moins dans la ruelle près de la Bastille, c'est des choses qui vont plus ou moins disparaître. On va être beaucoup plus dans la manipulation, l'enquête. Le côté un peu intrigue de vampire ouais. et que moi je trouve plus intéressant. J'ai plus aimé cette deuxième partie que la première.
Mais c'est vrai que ce qui était un peu compliqué parfois, c'est qu'on avait du mal à appréhender l'univers. Les premières parties, notamment les deux premières parties qui étaient assez laborieuses. Et donc en fait, la première partie était un peu laborieuse parce que du coup, on n'était pas on n'était pas trop au fait des règles. La deuxième partie était aussi un peu compliquée parce qu'on était mis devant le fait accompli, qu'on était devenus des vampires. Et on a un petit peu eu du mal à comprendre tout ce qui était lié au vampirisme, le sang et tout, etc., l'humanité. Et je crois qu'en fait, c'est à partir de la troisième session qu'on a vraiment commencé à être à l'aise avec les règles, avec la manière de jouer. Et aussi, on passait d'une configuration typiquement ultra bac à sable à un truc un peu plus guidé avec la troisième session. Et bah, la troisième, on était guidé quand
même.
Oui,
c'est la troisième.
En gros, il y a une alternance. Il y a à chaque fois une enquête un peu guidée, un bac à sable, une enquête un peu guidée, un bac à sable.
Et en fait, la prochaine est plutôt bac à sable.
Et en fait, celle où on était vampire était vraiment très bac à sable. Et là, on était complètement perdu. Là.
Enfin, la toute première, ouais.
La deuxième.
Bah, à votre décharge, déjà, c'est un scénario de découverte. Donc, en effet, le but, c'est que vous êtes un peu paumé dans l'univers. Et en plus, c'est un scénario de track, de fuite, de surprise. Donc, il est évident que tout ça vous met dans une. Enfin, vu de l'extérieur, les gens peuvent trouver ça un peu facile, mais en fait, c'est pas si simple que ça.
Oui. Un autre problème, c'est qu'on n'avait aucune quête personnelle. C'est-à-dire qu'on avait nos personnages à nous, à part survivre, n'avaient aucun objectif personnel qui aurait pu les guider vers quelque chose, puisque même s'ils avaient des objectifs personnels avant, d'accord. C'était des objectifs qui étaient au moment où ils étaient mortels. Dès que tu passes immortel, t'as des soucis bien plus importants qui peuvent arriver, mais t'as pas mon objectif final à moi, c'est de trouver tel artefact à tel endroit. Voilà.
Tu sais que c'est pas vrai, ça, Geoffroy. Je parle pas de choses qui se passent dans le futur, c'est que dans les parties d'après, c'est pas vrai. On a vraiment des... Enfin, en tout cas, je parle pour moi, peut-être pour toi aussi, peut-être pour Swan, on a quand même des objectifs personnels.
Oui, non mais au moment où on est vampire, juste après qu'on sorte du gîte et qu'on arrive à Paris, on n'a pas d'objectif.
Mais c'est ça que je trouve intéressant, okay. C'est qu'en fait vous avez un background avec des objectifs et tout d'un coup il y a un élément perturbateur. Et là, ça vous force à revoir ses objectifs personnels à l'aune de toutes ces perturbations. Quoi. Et ça, je trouve ça, c'est difficile à gérer, mais je trouve ça, c'est ce que je trouve.
Mon objectif au tout début, c'était, si je me rappelle bien du background de mon personnage, c'était d'essayer de savoir de quoi était mort mon père. Ça, finalement, on s'en fout. Je suis devenu un vampire. Mon but à moi, ça va être d'essayer de survivre. Mais du coup, j'ai plus forcément cette quête-là en tête.
On va être obligé de s'arrêter là parce que j'aurais une réponse à te faire, mais il y aurait du spoil, donc on va s'arrêter là. Donc, et un message donc, pour les auditeurs, ils vont en chier, tout ça, ça va être bien.
On va en chier.
Vous aussi.
Vous aussi, peut-être pas, mais essayez de tout suivre.
Est-ce qu'il faut faire attention aux détails, tout ça?
Faites très gaffe aux détails.
Alors moi,
si vous avez le temps, réécoutez toute la saison une fois que vous aurez écouté la première fois.
Alors moi, si j'ai un conseil...
C'est trop.
Si j'ai un conseil, réécoutez la présentation des personnages par les joueurs. Parce que il y a des trucs intéressants et on s'en est rendu compte à la toute fin et on s'en est voulu, on s'est vraiment dit qu'on était des gros connards. Parce que c'était sous notre nez.
En même temps, nos personnages, c'était pas tout dit.
Exactement.
Absolument.
C'était le but. Très bien, très bien. Et bien, c'est le moment de conclure ce premier épisode hors série. Il est probable qu'il y en ait d'autres pour parler plus généralement du jeu de rôle, de ce podcast ou du jeu de rôle en général. J'aimerais par exemple faire un petit débat avec d'autres podcasteurs sur le live play. Il est aussi possible que je fasse un hors série, mais cette fois-ci de jeu, c'est-à-dire un one-shot crossover avec par exemple nos amis de Club JDR ou Feu, par-delà les montagnes hallucinées. L'objectif serait de le faire sur un scénario one-shot. Mais dans le cadre, par exemple, de cette première saison.
Tu vas nous tromper ?
Alors, l'idée, en fait, ce serait de faire un scénario one-shot qui donnerait, par exemple, aux auditeurs un autre angle de vue sur l'un des événements de cette campagne. Donc, en gros, je vais essayer de trouver un événement de la campagne que vous avez joué, qui pourra être joué par d'autres joueurs en one-shot à distance, parce qu'eux, ils font ça à distance. Histoire de juste... Je voudrais que ça ait un intérêt, que ça s'inscrive dans le système narratif du podcast, parce que j'ai un peu de mal avec les one-shots. Donc l'idée, je vais essayer de trouver un moyen de donner un autre angle de vue d'un événement auquel vous avez participé, par exemple, pour que ça puisse enrichir un peu l'histoire.
Est-ce que ce sera le moment de la Bastille qui sera vu par d'autres joueurs?
Ça peut être pas mal.
Et là, j'ai vu deux connards s'avancer, ils se sont pris des balles, quoi, j'ai pas compris.
Voilà, il est temps de se quitter. Nous allons pour notre part enchaîner sur l'enregistrement de l'intersaison de la saison 1, saison 2. Et pour vous, chers auditeurs, vous nous retrouverez pour le prochain épisode de la saison 1, c'est-à-dire l'épisode 11, qui sera le début du quatrième et avant-dernier chapitre. N'hésitez pas à nous faire vos retours et à partager vos théories sur le scénario sur le blog p1pdd.com, facebook.com/p1pdd et Twitter @p1pdd. Chers joueurs, où vous retrouve-t-on sur les internets ?
Moi, c'est Xeutrope, Xeutrope sur Twitter et bientôt sur le site d'un hebdomadaire français.
Swanune.
Le vieux teasing. Ben voilà, Swanune, deux zen sur Twitter.
Très bien. Ateraki.
Moi, Ateraki sur Twitter, et j'apparais quelquefois dans une petite chronique de l'internet.
Qui s'appelle Chroma, de Karim Debbache, et c'est vachement bien.
C'est très bien.
Ah,
c'est vachement bien.
Il est tout gêné.
Il est dans
même
Chroma
si
de Karim Debbache.
La scène de bagarre au début est un petit peu longue. Mais...
Le mec à la tête, c'est lui.
Griffou.
Sur Griffou, twitter.com/Griffou, GRI2F4O.
2F4O.
2F4O, et sur thomasguide.fr, où j'écris tous les jours, parce que c'est mon travail.
Oh. Et moi, c'est Piouf, MR_POUF sur Twitter. Ciao,
bye bye. P-I-O-U-F, c'est dit P-O-U-F.
Ok, Mr Piouf, @MR_POUF, voilà, sur Twitter. Ciao à tous, bye bye.
Salut. Bye.